Il y a de cela plusieurs années en arrière, je travaillais dans la ville de Genève comme gardien de nuit. Ceux qui écoutent cette prédication et qui vivent dans la région limanique sauront tout à fait à quoi je fais référence. Et une nuit, j'étais dans mon service, je roulais en voiture pour aller d'un client à l'autre. J'étais étudiant et j'avais une voiture d'étudiant, c'est-à-dire une voiture d'étudiant de cette époque-là, parce qu'aujourd'hui les étudiants, ils ont des prêts, ils roulent en BMW. Mais à ce moment-là, c'était une voiture d'étudiant dans le sens ancien du terme. Une vraie voiture d'étudiant. Elle avait d'ailleurs une allure du siècle d'avant. C'était la nuit. Peu de gens en ville, presque personne. Et j'étais sur un grand boulevard et il y avait une double ligne blanche au milieu. C'est la nuit. Moi, je m'apprête à faire un demi-tour et à traverser les doubles lignes blanches pour aller voir un client de l'autre côté. À ce moment-là, une voiture, sortie de je ne sais où, arrive, s'arrête juste à côté de moi, me klaxonne, et on me fait le signe de descendre la fenêtre. Et le monsieur me dit, vous ne pouvez pas tourner ici, c'est là-bas qu'il faut tourner. Et quand vous aurez tourné, j'aimerais vous parler, s'il vous plaît. Il m'a parlé avec une telle autorité, je me suis dit, il faudrait peut-être mieux que je fasse ce qu'il dit. Alors j'ai été un petit peu plus loin, où il y avait un endroit où on pouvait faire demi-tour, et puis je me suis arrêté. J'étais en uniforme, lui était en civil, comme tout le monde. Alors je suis sorti de ma voiture pour rencontrer ce monsieur qui semblait avoir une certaine autorité, une connaissance du code de la route. Et je m'apprêtais à lui demander, mais qui vous êtes-vous? Et il a sûrement lu la question sur mon visage parce qu'il a sorti de sa poche une carte qui m'a fait lire, c'était marqué « Inspecteur de police ». Tout change à ce moment-là. Il était en civil, j'étais en uniforme. Il avait une voiture normale, j'avais un clou. Et il me demande... Je peux voir vos papiers, s'il vous plaît? Alors là, on ne pose plus de questions. Je lui sors les papiers de la voiture. Seulement, cette voiture, pour payer moins cher, je l'avais assurée au nom de mon frère. Donc, elle avait une plaque d'une autre région. Et il voit ça, il me dit, mais c'est à vous cette voiture? Je lui dis, oui, monsieur. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas à votre nom? Alors, il a fallu commencer à lui expliquer, vous comprenez? Ensuite, il me demande mon passeport. Je lui donne mon passeport belge. Vous êtes belge? Oui, monsieur. Et puis il me dit, vous habitez où? Je lui dis, j'habite en France. Il me demande mon papier d'autorisation d'habiter en France. Je lui donne. Finalement, il me demande, vous avez un permis de conduire? Oui. Je lui donne mon permis de conduire qui, à ce moment-là, était un permis de conduire américain. Alors il avait tous ses papiers en main, il me dit, monsieur, vous êtes belge, vous habitez en France, vous conduisez une voiture qui n'est pas à vous, et vous avez un permis de conduire américain. C'est pas clair tout ça. Il m'a remis tous mes papiers en main, il m'a dit, filez, filez. J'ai repris mon volant, j'ai conduit très sagement jusqu'au client suivant. Aujourd'hui, j'ai 3 passeports. Ma fille en a 4. C'est dire que la notion d'appartenance est très élastique, n'est-ce pas? Autrefois, on avait un passeport, on était fier d'être citoyen d'un pays, mais aujourd'hui, quand on en a 4, comment on fait? La notion d'appartenance est très différente aujourd'hui de ce qu'elle était autrefois. Pour beaucoup de choses d'ailleurs. Autrefois, on avait un métier, on le pratiquait toute sa vie. Aujourd'hui, on change de métier 4 fois, 5 fois dans la vie, on change d'entreprise, on va dans celle qui nous donne le meilleur salaire. On ne va pas travailler pour une entreprise, on va travailler pour notre salaire. Et si ça ne va pas, on les laisse tomber, on va chez des autres. Autrefois, on se mariait pour la vie. Mais encore une fois, aujourd'hui, si ça ne va pas, on en prend une autre. Et puis, on allait à la même église. Et si les gens n'étaient pas gentils, on allait quand même là, parce que c'était notre église, l'église de nos parents. Même s'il y avait une église en face, on n'allait pas à celle-là, on allait toujours à la même. Parce qu'il y avait cette notion d'appartenance. Beaucoup de gens, autrefois, sont nés dans un village, ont grandi dans ce village, ils se sont mariés dans ce village, ils ont élevé leurs enfants dans ce village, ils ont travaillé dans ce village, et ils sont morts dans ce village. Aujourd'hui, le monde est un petit village. Peu de gens habitent aujourd'hui dans le village où ils sont nés. Et quand on en rencontre, on dit, vous êtes d'où? De tel village? Ah tiens, moi aussi. Tiens, tout d'un coup, on se retrouve. C'est encore plus curieux quand on rencontre des gens comme ça et qu'on est à l'autre bout du monde. Mais aujourd'hui, c'est un peu différent. La notion d'appartenance est devenue extrêmement élastique. Chez certains, elle a disparu. Forcément, le monde a changé, on se déplace, on bouge. À quoi est-ce qu'on appartient? Beaucoup ne sont plus capables de le dire aujourd'hui. Cependant, dans les Écritures, la notion d'appartenance est extrêmement importante. Appartenir dans les Écritures, c'est essentiel. Et l'appartenance dans les Écritures n'est pas par rapport à la descendance, c'est par rapport à l'ascendance. On est fils d'eux. Autrement dit, on va avoir une autorité en fonction de notre père ou de notre grand-père. L'individu n'a pas vraiment beaucoup de crédit en lui-même, mais le crédit va venir de son père, de sa famille, fils d'eux. Et dans ce sens, on comprend bien entendu l'importance des généalogies dans la Bible. Fils d'eux, c'est important, c'est ce qui va me donner mon identité à moi. Regardez par exemple dans l'Ancien Testament, lorsque le livre de Jérémie va commencer, Jérémie va être introduit comme fils de Hilkija, de Anatot, la ville d'où il vient. C'est son identité, fils d'eux et de tel endroit. Dans le Nouveau Testament, on a la même chose. Jacques et Jean, fils de Zébédée. C'est leur carte d'identité. Si on dit simplement Jacques et Jean, comme nous avons l'habitude de le dire parce que nous sommes habitués, en fait, de qui on parle? Des Jacques et des Jean. Il y en a plein à ce moment-là. Non, Jacques et Jean, les fils de Zébédée. Autrement dit, dans la Bible, c'est extrêmement important de savoir à quelle famille on appartient, à qui on appartient, qui est notre père, qui est notre grand-père. Et dans les généalogies, que l'on, généralement, on saute pour continuer notre lecture, parce que cette liste de noms est extrêmement rébarbative, c'est des noms imprononçables pour beaucoup d'entre eux, mais ces généalogies sont extrêmement importantes. Et Luc, dans son évangile, présente la généalogie qui introduit le ministère de Jésus d'une façon tout à fait spéciale, parce qu'il va remonter jusqu'à Énos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Il souligne là quelque chose d'important, c'est que nous sommes de la même famille que Dieu. Autrement dit, notre appartenance, elle est là. C'est extrêmement important et les généalogies transmettent, essayent en tout cas de transmettre ce message de l'appartenance non seulement à nos pères qui se sont singularisés par leur foi sans aucun doute, mais de notre appartenance à Dieu. Appartenir dans la Bible, c'est extrêmement important. À qui appartient-on? À quelle famille? Et pour vous donner un exemple, on pourrait prendre l'histoire du peuple d'Israël quand il est revenu de sa captivité à Babylone, dans cette période qu'on appelle la période de la restauration. Restauration avec Esdras, Néhémie. Dans le livre d'Esdras, au chapitre 2, il est question de remettre en route tout le système de sacrifice et tout le service du temple. Et dans le texte qui nous intéresse, il est question ici des fils de Abaja et de Akots. Et au verset 62, il est dit, ces gens-là cherchèrent leur titre de généalogie, mais ils ne les trouvèrent point. On les exclut du sacerdoce. Et le gouverneur leur dit de ne pas manger des choses très saintes jusqu'à ce qu'un sacrificateur ait consulté l'urim et le thumim. Autrement dit, si vous n'avez pas de quoi prouver que vous êtes non seulement de la tribu de Lévi, mais que vous êtes aussi un descendant de Aaron, vous ne pouvez pas être sacrificateur. C'est donc important de savoir de qui on est les enfants, qui sont nos parents. Et le texte nous dit, ils ont été exclus du sacerdoce jusqu'à ce qu'un prêtre consulte Dieu et demande est-ce que ces gens sont vraiment dans ton service ou pas. Donc savoir à qui on appartient, savoir de qui on est le fils, c'est extrêmement important parce que ça va décliner notre identité aujourd'hui. C'est ce qui nous permettra d'être sacrificateurs ou pas dans le peuple de Dieu. Il y a l'appartenance à une famille, fils d'eux. Mais il y a aussi l'appartenance au lieu. Et ça va avec. Quand vous prenez par exemple l'histoire de Ruth, vous vous souvenez comment Naomi, de retour dans son pays, va parler à Ruth de cet homme qui s'appelle Boaz. Elle va l'inviter à aller dans son champ. Et le texte dans le livre de Ruth, au chapitre 2 et au verset 3, nous dit que Boaz est de la famille d'Elimelec. Et Elimelec, c'est le mari de Naomi qui est décédé. Ah, mais ça, c'est important. Il y a un lien de famille. Et il nous est dit aussi, il vient de Bethléem. Non seulement il y a un lien dans la famille, il y a un lien par l'endroit. Le lieu est important. Et puisque il y a un lien par Elimelec et par Bethléem, alors Boaz a un droit de rachat sur Ruth. C'est extrêmement important pour continuer à appartenir au peuple de Dieu. Il n'y a donc pas seulement l'appartenance à la famille, il y a l'appartenance à la terre, au lieu d'origine. L'attachement au lieu, c'est quelque chose qui est inné chez l'être humain. Regardez les enfants à un certain âge, ils veulent tous construire des cabanes. Alors ils vont prendre deux chaises, mettre un manche à balai, mettre un drap dessus, et ce sera leur maison. C'est ma cabane, je suis chez moi. Ils veulent se construire un petit chez eux au milieu de leur maison qui appartient à papa, à maman, à la grand, au grand frère, à la grande sœur, à tout le monde, quoi. Mais moi, je veux ma maison à moi. Alors ils vont mettre sur la chaise un drap et puis ils vont se mettre dessous. Ça sera leur maison, leur cabane, leur chez eux, leur lieu. On a tous envie d'avoir un lieu, de savoir à quel lieu on appartient. Et on a l'impression, quand on lit la parole de Dieu, que Dieu arrache à leur lieu ceux qu'il aime. Abraham, pensez à Abraham. Dans Genèse, au chapitre 12, la manière dont Dieu s'adresse à lui est extrêmement significative. Genèse, chapitre 12, regardez ce texte avec moi, voulez-vous ? Genèse, chapitre 12, c'est l'appel d'Abraham, qui s'appelle Abraham à cette époque-là. Genèse, chapitre 12, verset 1. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » Vous avez remarqué ?« Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. » Dieu lui demande de quitter les deux. Il lui demande de quitter sa famille, il lui demande de quitter son lieu. Finalement, de s'arracher aux deux choses importantes qui vont être son identité. Une coupure. Tu n'appartiens plus à cet endroit-là et tu n'appartiens plus à cette famille-là. Et maintenant, je vais m'occuper de toi. Je vais te donner un nom et une terre promise. Les deux choses que Dieu lui a demandé d'abandonner, il lui promet de les lui rendre, mais c'est lui qui va les donner cette fois-ci. Le poète avait écrit cette phrase qui est devenue un proverbe. Partir, c'est mourir un peu. Pour certains, c'est mourir beaucoup. Et on a l'impression que c'est exactement ce que Dieu veut. Partir, c'est mourir un peu. Pensez à cette expérience de Jésus dans l'évangile selon Luc au chapitre 9. Quelqu'un vient voir Jésus. Et il est dit au verset 58, verset 57 déjà, Évangile selon Luc, chapitre 9, verset 57, « Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Et il y a un autre, « Suis-moi. » On a l'impression que Jésus, ici, invite cet homme à abandonner son lieu pour être capable de suivre Jésus. Enlever cette appartenance au lieu, parce que, dit Jésus, le Fils de l'homme n'a pas de lieu. Il n'a pas d'endroit qui est à lui. Alors, on peut le prendre comme on veut. soit il n'y a aucun lieu qui soit à lui, soit alors on prend ce texte qui dit « Le monde est à moi et tout ce qu'il renferme ». Jésus semble inviter cet homme à abandonner un lieu, l'appartenance à un lieu, pour devenir un itinérant avec Jésus, à remplacer l'attachement à un lieu par l'attachement à une personne, Jésus. Et lorsqu'on pense à l'histoire d'Israël, le passage est encore plus évident. Pensez à Israël en Égypte, esclaves. Ils se lamentent de leur esclavage, mais quand on les en sort, ils voudraient y retourner. Donc ils y tenaient quand même pas mal. Mais Moïse va sortir ce peuple sous la direction de Dieu et les emmener où ? Au désert. Nulle part. C'est là qu'il les emmène. Il les arrache au lieu où ils étaient et les emmène nulle part. Et c'est là, dans ce nulle part désertique du Sinaï, que Dieu va les appeler et les inviter à faire alliance avec eux. Paul Tournier, dans son livre « L'homme et son lieu », reprend les béatitudes de Jésus à son compte et il dit « Heureux ceux qui n'ont plus de lieu, car ils sont ouverts à l'appel de Dieu. » Et c'est juste. « Heureux ceux qui n'ont plus de lieu, ils sont ouverts à l'appel de Dieu. » Et c'est exactement ce que Dieu a voulu faire avec ce peuple qu'il a emmené au désert, et là, au milieu de nulle part, entre l'Égypte, l'esclavage et la terre promise où ils ne sont pas encore, il les invite à s'attacher à lui, en premier lieu, à développer, autrement dit, une nouvelle appartenance. Non pas une appartenance à un lieu, à une origine, à une chose, une appartenance à une personne. C'est dans ce contexte que Dieu va s'adresser au peuple et leur dire ce qui est inscrit dans Exode chapitre 19. À partir du verset 4, la parole de Dieu est extrêmement significative. Exode chapitre 19. Dieu s'adresse à Moïse qui va être son porte-parole. Et il est dit dans Exode 19, verset 4, « Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. » Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Dieu les amène au milieu de nulle part et leur dit « Vous m'appartiendrez entre tous les peuples. » Une appartenance réciproque. Et Dieu leur donne aussi des privilèges. « Vous serez un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. » Le peuple répond « Oui, nous ferons tout ce que Dieu demande de faire. » Il rentre donc dans l'alliance. Et le moment où ce texte apparaît dans les Écritures est significatif. Tournez une page, vous êtes dans Exode chapitre 20, les 10 commandements, le texte même de l'alliance en question, les 10 paroles de Dieu. Texte de l'alliance mutuelle entre Dieu et ce peuple. Autrement dit, appartenance et alliance vont ensemble. On va appartenir parce qu'on a fait alliance avec. Dans le cas particulier, on a fait alliance avec Dieu et il va donner des devoirs et des privilèges. Sacrificateur, nation sainte. En obéissant à sa loi, le peuple dira à qui il appartient. Parce qu'on obéit à son maître, à celui à qui on appartient. Pour essayer de nous faire comprendre cette notion d'appartenance, Dieu va nous donner un exemple. Un exemple que nous comprenons fort bien, il se trouve dès le début de la parole de Dieu dans le livre de la Genèse. Genèse chapitre 2 au verset 24, Dieu va ici définir le couple. Il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Vous avez remarqué, les verbes sont très importants dans ce passage. L'homme quittera. Mais il s'attachera. Il va par conséquent changer d'appartenance. Et c'est exactement ce qui se passe dans le mariage. On change d'appartenance. On laisse notre famille dans laquelle on a grandi, on crée une nouvelle cellule avec deux personnes. Et il s'attachera. C'est un verbe très fort qu'on pourrait presque traduire, si on voulait, par coller, souder à, si l'on voulait suivre le terme tel qu'il est dans les Écritures. Un changement d'appartenance. Et ce que j'ai ici au doigt s'appelle une alliance, parce que c'est le signe d'une alliance réciproque d'appartenance entre moi et ma femme. D'appartenance réciproque. Une alliance. On appartient parce qu'on a fait alliance. Et ici, dans ce passage, un enseignement extraordinaire nous est donné. La fin du récit de la création, le premier récit de la création, s'achève au début du chapitre 2. Et la fin du premier récit de la création s'achève avec le sabbat. Le sabbat, c'est le signe de l'appartenance à Dieu. Mais il y a deux récits de la création. Le premier récit de la création s'intéresse essentiellement aux choses, et puis aussi au sixième jour, aux animaux et à l'être humain. Mais dans le deuxième récit de la création, qui commence chapitre 2, verset 4, par ces paroles, « Voici l'origine des cieux et de la terre quand ils furent créés », dans ce deuxième récit, Dieu va s'intéresser spécialement à l'être humain qui est là. Et curieusement, ce deuxième récit se termine aussi par une notion d'appartenance qui est parallèle au sabbat. Et c'est le texte que nous avons lu. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ils deviendront un. Le sabbat ici sanctionne cette appartenance à Dieu. Et à la fin du deuxième récit, le couple, c'est l'appartenance l'un à l'autre. Malheureusement, il y a un chapitre 3. Et dans le chapitre 3, l'homme va perdre les deux appartenances. D'abord parce que il va désobéir. Et là, il n'appartient plus à Dieu. Il a changé de maître. Et lorsqu'il est confronté par Dieu à ce qu'il a fait, il perd aussi son appartenance réciproque parce qu'il s'accuse l'un l'autre d'avoir commis la faute. Dans le chapitre 3, l'être humain va perdre ce qu'il a gagné dans le chapitre 1, appartenance à Dieu, ce qu'il a gagné dans le chapitre 2, appartenance l'un à l'autre. Il va donc falloir quelque part reconstruire cette appartenance, retrouver une nouvelle appartenance. Et pour avoir une nouvelle appartenance, il faut faire une nouvelle alliance. Alors cette nouvelle alliance nous donne une nouvelle dimension. Regardez par exemple dans l'Épître aux Galates, au chapitre 3. Épître aux Galates, chapitre 3. Un passage extrêmement fort quand on y pense, dit ceci au verset 26. Galates, chapitre 3, verset 26. Il est écrit ceci. « Car vous êtes tous fils de Dieu » par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Autrement dit, par le baptême, nous redevenons fils et filles de Dieu. Nous avons là cette nouvelle alliance, cette nouvelle appartenance. Non pas tant à un lieu qu'à une personne cette fois. L'appartenance à Jésus-Christ, fils et filles de Dieu. C'est ce que nous voulons être, c'est finalement notre carte d'identité, celle dont Luc parlait dans sa généalogie, en remontant jusqu'à fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Alors nous sommes fils de Dieu parce que nous avons accepté de mourir à notre famille ancienne dans le baptême et à renaître dans une nouvelle famille, la famille de ceux qui reconnaissent Jésus-Christ comme leur ancêtre. Mais le baptême est un symbole, c'est un signe, c'est une image. Je sais que nous sommes inscrits dans les registres de l'Église, mais cela ne veut pas dire que nous appartenons à Dieu pour autant. Et je repense à la frustration que Dieu exprime par rapport au peuple d'Israël. Une frustration que je comprends. Regardez avec moi ce passage dans le premier chapitre du livre du prophète Ésaïe. Ésaïe chapitre 1er, au verset 3. Le livre commence avec ça. C'est comme si Dieu, tout de suite, dit ce qu'il a sur le cœur. Au milieu du verset, au verset 2, il est dit, « Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur, l'âne connaît la crèche de son maître, Israël ne connaît rien, mon peuple n'a point d'intelligence. » C'est comme si Dieu disait, les bœufs savent qui est leur propriétaire, les ânes savent à qui ils appartiennent, mais vous, mon peuple, vous ne le savez même pas à qui vous appartenez. Les animaux le savent, vous, vous ne le savez pas. Mes enfants ne savent pas qu'ils sont mes enfants et que je suis leur père, dit Dieu. Voilà comment commence le livre du prophète Ésaïe. La frustration d'un père qui n'a plus d'enfants parce que ses enfants ne savent même pas qui est leur père. Mais son bœuf va rentrer à l'étable ce soir fidèlement, lui. Une frustration d'un Dieu qui veut être le père de ses enfants, leur identité même. Et eux ne le savent même pas. Ils ont oublié à qui ils appartiennent. Mais ils sont membres du peuple de Dieu, ils sont israélites. Et là, on pourrait transférer ça à l'Église. Membre d'église, bien entendu, inscrit dans les registres de l'église, sans problème, mais appartenant à Dieu, pas sûr. C'est pas automatique. Ça va dépendre où est mon cœur. Alors c'est comme dans le couple. On est deux, mais on ne peut pas vivre à deux comme si on était tout seul. Si on vit dans un couple comme si on était tout seul, oh, c'est sûr, on est encore marié, mais il n'y a plus de couple. En tout cas, plus selon le plan divin. L'appartenance implique par conséquent que je suive les lois, les modes d'emploi de celui avec qui j'ai fait alliance. De la même manière, en tant que chrétien, je vis en couple avec Dieu, mais je me surprends parfois à vivre comme si j'étais tout seul. Et c'est vrai. Et c'est vrai que je peux le matin prendre le temps dont j'ai besoin pour lire la parole de Dieu, pour prier. Et puis tout d'un coup, c'est fini, je m'en vais. Et je commence ma journée, je me dis, bon, cette fois-ci, alors, qu'est-ce qu'il y a à faire? Il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et j'ai laissé le Seigneur à mon bureau. Et moi, je suis parti. Dans mes activités, dans ma journée, je l'ai laissé là. Alors qu'il m'invitait à le rencontrer et à partir avec lui bras dessous pour toutes les activités de la journée. Mais combien de fois, moi, je l'ai oublié dans mon bureau et je suis parti comme si il n'y avait pas d'appartenance l'un à l'autre. Dans l'Ancien Testament, l'apôtre Paul va nous rappeler cette appartenance. À quel point elle est importante. Dans 1 Corinthiens chapitre 6 se trouve ce texte que vous connaissez bien, où l'apôtre Paul souligne l'importance de savoir à qui on appartient. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19 dit ceci. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Vous avez remarqué que dans ces deux versets, le verbe appartenir revient plusieurs fois. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Non, parce que j'appartiens à Dieu. Et l'apôtre Paul nous dit pourquoi on appartient à Dieu. C'est parce qu'il nous a rachetés. Ah, mais c'est qu'il y a eu un prix à payer à cette appartenance. Le prix à payer, c'est lui qui l'a payé. C'est le rachat. Nous appartenons au Seigneur parce qu'il nous a rachetés. C'est la différence qu'il y a entre appartenir à un lieu et appartenir à une personne. Il y a un prix à cette alliance. Il y a un prix à ce rachat. On pense souvent qu'appartenir est par conséquent une limitation de la liberté. Une conception complètement non biblique du couple circule dans le monde aujourd'hui selon laquelle quand on est marié, on est plus libre. Et pourtant, le couple est pris justement dans les Écritures comme l'exemple de cette appartenance auquel le Seigneur nous invite. Lorsque le Seigneur nous invite à lui appartenir, il nous invite à recevoir la libération qu'il donne. Et c'est ce qu'il a proposé au peuple d'Israël. Lorsqu'il propose au peuple d'Israël, au milieu de nulle part du désert, de lui appartenir, c'est parce qu'il l'a libéré de l'Égypte et qu'il l'emmène en terre promise. Appartenance, en fait, doit correspondre dans notre esprit à libération. La libération, c'est une personne, c'est Jésus. Et ça fait toute la différence. Alors je me pose la question ce matin de savoir, non pas si je suis membre d'église, inscrit ou pas, non pas tant si je suis baptisé ou pas, encore que certains ne le sont pas ici ce matin et pourraient considérer que leur appartenance a quelque chose qui manque. Mais je me pose plutôt la question de savoir si, indépendamment des papiers remplis, des noms inscrits, indépendamment de cela, est-ce que mon appartenance à Dieu est réelle et solide? Est-ce qu'elle est vraie? Est-ce que j'appartiens vraiment à Dieu dans mon cœur ou simplement quelques moments? Dedans, dehors, dedans, dehors, dedans, dehors, dehors, dedans, dehors. Ou bien est-ce que c'est une appartenance parce qu'il y a une alliance solide entre lui et moi? Appartenir à Dieu, c'est vivre à deux. J'aimerais partager avec vous cette phrase qu'Ellen White rapporte dans Heavenly Places à la page 247. Très poétique, très beau. Dieu nous invite à fermer la fenêtre de notre âme sur le monde autour de nous et à l'ouvrir vers le ciel pour que Dieu puisse inonder notre cœur de la gloire qui s'échappe par-dessous la porte du ciel. Fantastique. Mais pour cela, il faudra que je ferme mon appartenance à tout ce qui est autour. Oh, j'y suis dans ce monde, et j'y vis, mais je n'y appartiens pas. Alors je me pose la question, quand je suis occupé à mes affaires 6 jours par semaine, est-ce que j'appartiens à ce monde-là? Pour appartenir au royaume de Dieu, juste le jour qui est le sien, mon appartenance, où est-elle? À qui est-ce que j'appartiens? Est-ce que vous avez l'impression d'être comme assis entre 2 chaises, celle du royaume des cieux et celle du monde dans lequel on fait nos affaires, avec une espèce d'appartenance hybride, un peu des deux, un peu à Dieu et un peu au monde, parce qu'il ne faut quand même pas être trop différent d'eux après tout. Est-ce que vous vivez en couple avec Dieu, comme Dieu voudrait que le couple puisse vivre dans cette unité, au point que l'unité qui est utilisée pour parler du couple, c'est le même mot qui est utilisé pour parler de l'unité de la divinité. Plus fort, vous ne trouvez pas. La prochaine fois que nous partagerons ce moment de culte, nous continuerons notre réflexion sur l'appartenance, parce qu'il y a les signes de l'appartenance. Et les signes de l'appartenance sont extrêmement forts. Ils trahissent d'ailleurs à qui nous appartenons. Et si nous n'avons pas dans notre esprit une claire compréhension de à qui nous appartenons, peut-être que les signes que nous vivons vont trahir notre véritable appartenance, à notre insu, sans que nous le sachions. Nous y réfléchirons ensemble, mais pour aujourd'hui, j'aimerais vous laisser ce passage. Où pour Dieu, les choses sont claires. Pour Dieu, c'est clair. La question est de savoir si ça va dans l'autre sens. Dans Ésaïe au chapitre 43, au verset 1er, écoutez simplement ce passage. Dieu dit, « Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël, ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. » Propriété de Dieu, appartenance à Dieu. Je te connais et je t'appelle par ton nom. Un jour, lorsque le Seigneur aura fait de cette appartenance réciproque quelque chose de vrai, quelque chose de profond, quelque chose de solide et de permanent, il va nous donner un nom nouveau, un nom qui correspond au type de relation d'appartenance que nous aurons créée ensemble pendant le temps où nous marchons sur cette terre. Je sais ce que signifie mon nom aujourd'hui, mais je me réjouis de savoir ce que signifie le nom que le Seigneur va me donner. Amen.